tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Le livre de Frog. Roman,
discussion,
échange,
livre.
Le livre de Frog.
Littérature,
livre,
page,
invité,
marque-page.
Le livre de Frog.
Eh bien, bonjour, c'est un vrai plaisir pour Élodie et moi-même de recommencer à nous échapper pour cette année de notre fac de lettres, pour venir ici à Radio Grenouille parler littérature dans le livre de Frog. Alors, si nous avons gagné du temps d'émission avec l'été, puisque nous disposons désormais de presque une heure de discussion, le concept du livre de Frog, lui, n'a pas changé. Et en ce mois d'octobre, nous sommes donc ravis d'accueillir Gilles Ascaride, écrivain marseillais, qui vient nous parler de l'un de ses livres préférés, à savoir Malpertuis, de l'écrivain belge Jean Rey, dont il nous offre d'ailleurs tout de suite la lecture d'un extrait qu'il a choisi pour nous plonger dès le début de cette émission dans l'ambiance inquiétante de ce roman fantastique.
Tout cela n'est que cauchemar. C'était la pauvre voix de la raison qui essayait de parler au fond de mon être, mais elle se tut et ne répéta plus ses consolantes paroles. J'étais assis dans la cuisine noire, devant les feux éteints, une chandelle vacillante faisait bondir les ombres d'angle en angle. Je ne pouvais dire comment j'y étais venu, en tout cas c'est là que je retrouvais ce qu'on appelle les esprits. Je criais, je fis l'appel de tous ceux qui avaient vécu avec moi sous le toit maudit, personne ne répondit. J'étais seul dans Malpertuis. Seul. Et alors ? J'eus l'incroyable courage de partir en expédition à travers l'horreur nocturne de cette maison infernale. Les formes falotes de Mathias, de l'oncle Didelot, et de l'informe Tchic ne flottaient plus au plafond de l'officine déserte. Je poussai jusqu'à la loge des Gribouins, elle était vide. Partout, je cherchais Lampernis, mais il n'y était plus. Vide était la chambre du cousin Philarette, vide les appartements des dames Cormélon, sombres et déserts se réservaient à l'oncle Didelot et à sa famille. J'eus l'étrange curiosité d'entrer au salon pour voir si les restes répugnants du docteur Sambuc s'y trouvaient encore, mais sa chaise était nette et propre. « Cauchemar !» répétai-je en tenant haute comme un flambeau la chandelle pleurant le suif. Je poussai un cri, de joie peut-être. Tante Sylvie était là, sur sa chaise, droite et tranquille. « Tante ! Tante !» Ses yeux étaient clos et mon cri ne l'attira pas de son sommeil. Je m'approchai et posai ma main sur son épaule. Lentement, son corps glissa de côté et tomba sur le parquet avec un bruit de tonnerre. Ce n'était pas un corps humain, mais une statue de pierre qui venait de se briser sur le sol. Alors, dans la nuit, une voix très claire s'éleva. « Nous sommes à présent seuls dans Malpertuis. » Je hurlai. « Eurial !» Mais ma cousine ne parut pas. Je courus comme un fou à travers la maison, la suppliant de venir me voir. Je ne la trouvais point. Je revins à mon point de départ, l'âme remplie de désespérance. Arrivé devant le dieu Terme, ma chandelle s'éteignit, et je vis du fond des ténèbres les terribles yeux verts venir vers moi. Je sentis un froid énorme envahir tout mon être. Mon corps se scella aux dalles. Lentement, mon cœur cessa de battre.
Bonjour Gilles Ascaride.
Et bonjour.
Bonjour Erika.
Bonjour.
Alors, Gilles Ascaride, on est ravis de vous accueillir au livre de Frog. Merci beaucoup de cette lecture. On sent qu'il y a quelque chose du comédien aussi derrière l'écrivain.
Tant qu'à faire.
Vous venez donc de nous lire un extrait d'un de vos livres préférés, donc Malpertuis, qui est un roman fantastique publié donc en 1943 par Jean Rey, alias Raymond de Crémer. Il a eu plusieurs pseudonymes, qui est donc un écrivain belge né en 1887. Alors avant de revenir à ce livre qui nous a fait poser beaucoup de questions, eh bien quelques mots sur vous. Donc vous êtes écrivain, sociologue de formation. Votre dernier roman, La conquête de Marseille, a été publié donc en février dernier aux éditions du Fioupelin. Et vous avez également publié dans cette même maison d'édition J'ai tué Maurice Thorez, donc en 2012, qui est un recueil de nouvelles que vous avez aussi adapté au théâtre. Et dans cette adaptation, vous avez joué vous-même sous la direction de Serge Valetti.
C'est ça.
Vous avez fondé avec Henri-Frédéric Blanc le mouvement de l'over-littérature, on y reviendra peut-être, un mouvement qui se veut marseillais sans être régionaliste, qui pratique une littérature iconoclaste, au réalisme souvent burlesque, et qui se veut surtout libéré de toute contrainte. Alors, vous avez choisi pour cette émission Malpertuis. Il faut savoir que Jean Rey est un éminent écrivain du genre fantastique. Il a écrit Les Contes du Whisky ou la série des Harry Dickson, le Sherlock Holmes américain, qu'Alain René avait pensé un temps adapté au cinéma, ce qui n'est quand même pas rien. Et Malpertuis est considéré comme un des textes majeurs de Jean Rey. Alors, nous avons décidé avec Erika et en essayant aussi, en voulant profiter de votre complicité sur ce point-là, de ne pas spoiler Malpertuis. Alors, autrement dit, pour ceux qui ne seraient pas familiers de ce terme utilisé fréquemment par les amateurs de séries, eh bien, on a décidé de ne pas dévoiler le fin mot de cette histoire. Alors, il me faut quand même résumer quelque peu le livre dont nous allons parler. Alors, sans en dire trop, eh bien, on va dire que cette histoire nous est racontée par différents narrateurs, il me semble que c'est important. On va dire aussi que ce roman se présente comme un huis clos qui se déroule dans une demeure labyrinthique qui porte le nom de Malpertuis, justement. Et disons aussi que le personnage de l'oncle Cassave est mourant et qu'avant d'expirer, il annonce une prophétie qui va nouer le destin de l'ensemble des personnages. Personnages qui se présentent sous des apparences assez intrigantes d'ailleurs. Donc Jean Rey se plaît à créer le malaise, à inquiéter le lecteur, à l'avertir et à l'égarer tout de suite après et à faire surgir le surnaturel dans un univers pour le moins bourgeois, finalement. Alors, j'ai l'ascarie de première question rituelle au livre de Frog. Pourquoi ce livre ?
Eh bien, parce que c'est votre faute, c'est vous qui m'avez dit de quel livre avez-vous envie de parler. Et il se trouve que je vous ai répondu des miens, d'abord. Mais comme c'était pas le deal, je me suis dit, en toute honnêteté, je n'avais envie de parler d'aucun livre, même si j'en ai lu beaucoup, si ce n'est de profiter de cette occasion pour parler une fois dans ma vie, publiquement, de ce roman dont je dois dire qu'il m'a hanté. Voilà, il n'y a pas d'autre mot.
Hanté.
Ah oui, ce roman m'a hanté. La première fois que je l'ai lu, je devais avoir 17 ans. Vous voyez, ça fait exactement 50 ans. Et je lis Malpertuis toujours. Ce doit être le livre que j'ai le plus lu. D'ailleurs, vous voyez l'état du bouquin que j'ai amené avec moi. Il tombe en lambeaux.
Oui, en effet. Il n'est pas neuf.
Voilà. Et pourtant, il a été publié en 1962 aux éditions Marabout. Et je connaissais déjà un peu Jean Rey, mais par... comment vous dire, j'étais très accroché déjà par la littérature fantastique, ce que je suis beaucoup moins maintenant. Mais je le connaissais par ses nouvelles.
Oui.
Et alors, c'est Marabout qui l'a surtout fait connaître en France, même si Malpertuis date de 43, vous voyez, c'était publié en 62, c'est-à-dire 20 ans plus tard. Et Présence du Futur l'avait d'ailleurs publié, mais s'était arrêté à ça, avait publié chez De Noël, Malpertuis, c'est tout. Et j'avais lu ses nouvelles, j'avais lu Carousel des Maléfices, les nouveaux contes de Canterbury. C'était surtout pour moi un auteur de nouvelles et je vois ce qu'il a écrit là-dessus, le seul roman du maître de la littérature fantastique. Et ça, c'est déjà une première question parce que c'est pas vrai. Il a écrit d'autres romans et je ne sais pas pourquoi, on persiste à dire que Malpertuis est le seul roman qu'il ait jamais écrit. Il a écrit entre autres sous le nom de Jean Rey, La Cité de l'Indicible Peur, qui a été adapté au cinéma hein, aussi par Jean-Pierre Mocky. Et lorsque j'ai lu pour la première fois Malpertuis, je vais vous étonner, je devais avoir, je vous dis, j'avais pas 18 ans, j'ai rien compris. Je me suis dit, oh là, qu'est-ce que c'est que cette histoire, c'est compliqué, je comprends rien, voilà, je pense que j'étais pas complètement dégrossi hein, à tout ce qui peut être subtilité de la littérature et des mots et de comment faire passer une ambiance, etc. Et vous savez, je sortais de l'adolescence, hein, 17 ans, 18 ans, et je pense que je trempais encore dans, je sais pas moi, dans les films de la Hammer Film, Frankenstein s'est échappé, le cauchemar de Dracula, c'est-à-dire où les choses sont relativement simples à comprendre, hein, une fois qu'on sait que ça n'existe pas, que c'est fantastique. Tandis que là. On est dans cette espèce d'histoire où, comme vous dites, il décrit une espèce de société petite bourgeoise avec des petits commerçants, des employés aux écritures, etc. Et derrière ça, il se cache un truc absolument colossal, quoi. Je crois que je n'avais pas très bien compris. Et quelques temps plus tard, je l'ai relu. Et je peux vous dire que là, j'ai fait plus que comprendre. Je me suis dit, mais je ne vais pas vous dire, c'était... ce livre, il est entré dans mes os.
Ah oui.
Oui. Et pour vous dire, je crois que c'était dans les années 60, à la fin des années 60. Ce livre a commencé à ce qu'il décrivait, ce qu'il racontait, a commencé à tellement, je ne sais pas pourquoi, hein, à correspondre chez moi à quelque chose dont je devais être très porteur. Parce qu'on y trouve tout, d'abord la peur, évidemment, la peur de ce monde incompréhensible, et puis ces femmes qui sont dans ce roman, qui sont, on voit bien, très belles, mais terribles. Hein? Donc Jean-Jacques Grancier, il est aimé de deux femmes, puis il les aime aussi, qui sont très belles, mais bon, elles sont quand même très redoutables. Avec ce côté, je dirais, d'une famille qui n'en est pas une. Hein, on a l'impression que, puisque tous les gens sont les héritiers de l'oncle Cassab, c'est la famille, ma cousine Rial, mon oncle dit Delot, et puis bon, le lecteur verra lui-même que c'est drôlement plus compliqué que ça, c'est une famille qui n'en est pas une. Qu'est-ce qui se cache derrière cette famille? Et puis cette maison. C'est-à-dire, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, c'est-à-dire les endroits mystérieux, les maisons hantées. J'en avais une peur bleue, hein. Maintenant, je rêverais d'aller passer une nuit dans une maison hantée, mais à l'époque, j'avais la trouille. Et. Pour vous dire, lorsque j'ai commencé à relire ce roman, il m'est arrivé, alors évidemment c'était complètement, pour dire comment j'étais habité, je partais le soir, la nuit dans Marseille pour me dire, il doit y avoir des baraques comme ça, je vais en trouver une. Il doit y avoir des baraques où il se passe des choses absolument... Alors Marseille est une ville extrêmement mystérieuse, hein, mais elle n'a pas de Malpertuis. Hein, elle n'a pas, en tout cas, intramuros, elle en a, mais elle n'a pas cette espèce de grande maison, comme il dit, Jean Rey lui-même, pour moi, c'est un hôtel du XVIIIe siècle, que j'ai construit à partir de diverses demeures, aussi bien de Gand, qui est sa ville, que de Hanovre, qui est la plus belle ville du monde, etc. Voilà. Et donc, j'allais chercher, et évidemment, je n'ai jamais trouvé, sinon je n'aurais jamais écrit. Je crois que je serais rentré dans cette demeure et je serais devenu un des personnages de ce monde si mystérieux, quoi. Parce qu'en même temps, c'est vrai que c'est terrible ce qui s'y passe, et c'est fascinant. Je pense que c'est aussi, la façon dont on peut être attiré à la fois par la mort, évidemment, hein, par ce mystère de la mort et aussi, mais ça c'est Jean Rey, je veux dire là où il est fort, c'est que surtout dans la première partie, ça continue après, mais dans la première partie qui se passe dans Malpertuis, dans la maison, il y a ce personnage tout à fait étonnant de Élodie, la bonne cuisinière, qui fait des plats, qui fait des trucs à bouffer, que les gens mangent par terre, enfin, des gâteaux, des choses. Et donc dans cette maison absolument terrifiante, noire, etc., il y a aussi un endroit... du bonheur, quoi. Il n'y a qu'à s'asseoir et on mange des gibelottes, on mange des petits oiseaux à la broche, on mange du gigot à l'ail, on mange des charlottes à la fraise. Bon, ce truc aussi de dire, bon, mais ça c'est Jean Rey, hein. Si vous disiez sa littérature, c'est aussi une littérature où la cuisine est omniprésente, la littérature, le bon vin, le whisky, bon, moi j'aime ça. Pas la bouffe, hein, pas la bouffe, je ne suis pas un grand mangeur, je préfère boire, mais... Il arrive, c'est-à-dire ça sent quoi, il y a de l'odeur, hein, ça sent la bouffe, ça sent la bonne bouffe, et donc, bon, je me dis, cette maison terrible qui peut sentir si bon, ben, voilà, moi je suis un homme de contraste, de paradoxe, voilà ce qui m'a plu, je pense. Mais, je peux vous dire, pour finir là-dessus, pourquoi ce livre? L'année 68, l'année universitaire, j'étais étudiant, mes chers enfants, donc j'ai vécu 1968 comme étudiant. Eh bien, je peux vous dire que cette année-là, c'est inoubliable pour moi. L'année scolaire 1967-1968, j'ai relu Malpertuis tous les dimanches. Tous les dimanches. Okay. J'étais étudiant à Aix, je rentrais chez mes parents le dimanche. Et le dimanche après-midi, je prenais Malpertuis et je lisais Malpertuis. Mais c'était plus fort que moi, hein, j'étais hanté. Il fallait que je me retrouve avec ce monde-là, avec tous ces gens-là. Bon, c'est peut-être pas une très bonne chose, parce que vivre avec des personnages imaginaires, c'est pas une très bonne chose pour un jeune homme. Mais bon, c'est bon pour la littérature, hein, ouais, aussi.
Quelle expérience. Alors, vous nous parlez déjà d'ambiance, de mystère, voilà, tous ces termes qui reviennent. Et je voulais justement revenir un peu là-dessus, et notamment sur l'extrait que vous avez choisi pour entamer l'émission, parce que particulièrement celui-là, il m'a paru très, très bien pour aborder ce qui est très certainement, je crois, l'une des clés principales de l'œuvre, et qui est donc le fantastique, et surtout avec ce fantastique, c'est le malaise, l'inquiétude, la tension et la peur constants qui sont construits autour de celui-ci. Alors, j'avoue que moi, je ne suis toujours pas une très grande spécialiste de la littérature fantastique. Ce n'est pas un genre que je lis beaucoup, mais je connaissais, voilà, si je pense littérature fantastique en tant que étudiante de littérature, on pense immédiatement souvent à ces très connus de Todorov qui s'appelle Introduction à la littérature fantastique. Et donc, comme c'était à peu près le seul point de repère que j'avais pour déchiffrer tout ça, je suis allée voir un petit peu cet essai, les premières pages, et puis je suis au tout début, quand il commence à définir ce qu'est la littérature fantastique, j'ai trouvé ce passage et je me suis dit, ça c'est bien, on est bien. Alors voilà le passage. Ainsi se trouve-t-on amené au cœur du fantastique, dans un monde qui est bien le nôtre, celui que nous connaissons, sans diable, sylphide ni vampire, et se produit un événement qui ne peut s'expliquer par les lois de ce même monde familier. Celui qui perçoit l'événement doit opter pour l'une des deux solutions possibles. Ou bien il s'agit d'une illusion des sens, d'un produit de l'imagination, et les lois du monde restent alors ce qu'elles sont. Ou bien l'événement a véritablement eu lieu. Il est partie intégrante de la réalité, mais alors cette réalité est régie par des lois inconnues de nous. Et il dit un peu plus loin, le fantastique occupe le temps de cette incertitude. Alors je reprends maintenant le début de votre extrait très rapidement. Tout cela n'est qu'un cauchemar, c'était la pauvre voix de la raison qui essayait de parler au fond de mon être. Donc là, je dis, bon, c'est bien, on est à peu près dans le bon genre. Donc, et c'est vrai que le livre, s'il y a une chose qu'on peut dire, c'est qu'il est très efficace pour tenir dans cette tension qui est caractéristique du genre et ce mystère qui est entretenu dans un monde qui a effectivement l'air d'être le nôtre, mais dont on nous dit dès le départ, attention, il va se passer des choses étranges et même terrifiante. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, peut-être dans cette idée, voilà, de cette force de Malpertuis, dans cette promesse de cette irruption de l'étrange et du surnaturel qui est entretenue et qui s'épanouit complètement.
Je peux qu'être d'accord, Erika, parce que c'est, en tout cas, en ce qui me concerne, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus terrifiant que quand justement on n'est pas dans le rêve, qu'on est dans une réalité dont on perçoit à peu près tout, sauf qu'il y a quelque chose là-dedans et qui ne colle pas. Et cette chose qui ne colle pas et qui peut d'ailleurs métastaser pour bouleverser toute la réalité. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? On la fuit, on dit j'ai rêvé, je veux pas savoir. Et le fantastique, c'est celui qui ne fuit pas, c'est-à-dire qui rentre dans l'histoire, qui rentre dans Malpertuis, c'est fini, il est cuit. Hein? Mais il accepte effectivement de commencer à se poser des questions et de dire bon ben et que fait Jean-Jacques Grandcyr? Il est complètement ballotté, mais n'empêche qu'il ne fuit pas. Hein? Il répond à l'appel de ses femmes, il s'étonne sur la façon dont les gens se comportent, il va voir de plus près, il va chez la vieille mère Gribouin pour voir avec qui son oncle Didelot a rendez-vous, alors qu'il pourrait dire non. Et je crois que si j'ai lu cet extrait, c'est exactement ça, c'est-à-dire quoi de plus terrible que de se dire, mais bon sang de bois, surtout c'est l'extrait que j'ai lu, c'est après la nuit de Noël. Ouais. Mais il y a 5 minutes, j'étais à réveillonner avec ma famille. Il n'y a plus personne dans la maison. Ça, pour moi, c'est le comble de la terreur. Vous voyez, je pense que quand j'étais gosse, j'avais peur de ça, de lever la tête et qu'autour de la table, où il y avait mon papa, ma maman, mon frère, plus personne. Le chien, hein, plus personne. D'ailleurs, Jean Rey a écrit une nouvelle comme ça, du gars qui dit « J'ai une réunion, je reviens. Ma famille est là, ils ont préparé une soirée, on va bien manger, on va bien boire, etc. Mais j'ai un truc, je m'absente une demi-heure et je reviens. » Et quand il revient, il dit « Coucou, c'est moi !» Et il n'y a personne. Il n'y a plus personne. Et il ne retrouve plus jamais sa famille. Bon, voilà. Donc, quoi de plus horrible, je dirais, que ce genre de choses. Mais si vous voulez, Vous êtes en train de me faire prendre conscience, en citant Todorov, là, de quelque chose qui me revient, qui est exactement... Peut-être que des gens qui me connaissent un peu, qui m'ont lu, s'étonneront de me voir parler de ce bouquin, hein, fantastique, terrifiant, terrible avec ses personnages. Alors que moi, je suis plutôt connu pour écrire des choses qui sont plutôt drôles, où l'humour est toujours présent, ou etc. Mais tout de même, vous voyez, en vous écoutant, je n'ai pas préparé mon coup, c'est en vous écoutant, hein, j'ai quand même écrit, il n'y a pas si longtemps, j'ai publié il n'y a pas si longtemps, un roman qui s'appelle, c'est un roman qui n'est pas de l'over-littérature, Dolorès puis Clément, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est exactement ce que vous avez dit. Voilà un homme, le héros principal, c'est peut-être le plus fantastique de mes romans, c'est vrai. Le héros principal est un homme dont la femme est morte d'un cancer, qui a perdu sa femme, et qui a un petit garçon qui a 8 ans, qui l'élève seul, d'accord ? Et puis, bon, les années passant, il s'est trouvé une bonne amie, mais il ne sait pas trop s'il a envie de faire sa vie avec elle, etc. Comme il dit, il est au service de son fils, quoi. Son fils, c'est une espèce de petit bonhomme absolument extraordinaire. Et ce petit garçon se met à lui parler de son frère. Un frère. Il a un frère qui s'appelle Clément et qui est son frère aîné. D'accord ? Alors au début, je dis, bah oui, souvent les enfants, ils ont comme ça, ils ont un frère inventé, un copain inventé. Ma fille dit quand même, il a 8 ans, s'il est grand pour avoir un grand frère comme ça. Et lui, quel âge il a ton frère Clément ? Bah il a 13 ans. Et puis il parle italien, et puis il sait faire ça, et puis il a une mobilette, et puis... Et en fait, petit à petit, cet homme se dit, c'est pas possible, il passe devant la chambre de son fils, il entend parler. Il dit, mais mon petit garçon, il devient fou, il parle tout seul. Non, son petit garçon, il se rend compte au bout d'un moment qu'il y a bien un autre fils. Il ne sait pas qui c'est, bien sûr, il dit, c'est pas possible, d'où il sort celui-là. Et un autre fils qui vient d'on ne sait où, voilà, mais qui est son fils. Et petit à petit, il va construire une relation, vous voyez ? Alors, et effectivement, c'est peut-être le plus fantastique de mes romans, c'est-à-dire qu'à un moment, eh ben, qu'est-ce qu'il fait cet homme ? Il accepte de se dire, eh ben ouais, j'ai un fils qui vient de je ne sais pas où, et je vais construire une relation avec lui. Et ce fils fait des choses absolument extraordinaires, parce que bon, il vient en partie du monde des morts, hein, donc il dit, mais c'est qui ta mère ? Il dit, ben c'est maman, on a la même maman, celle qui est morte. Oui. Voilà. Donc effectivement, le fantastique, c'est ce truc qui fait qu'à un moment, on peut raconter une histoire fantastique quand, le personnage qui la raconte ne va pas fuir cette réalité, va la subir des fois, mais va y entrer dedans, et effectivement... Après, qu'est-ce qui se passe ? Où ça dégénère, comme dans Malpertuis, c'est-à-dire à mesure qu'on commence à entrer dans la réalité, on entre dans un monde qui reste toujours accroché au réel, hein, oui. Vous êtes d'accord ?
Oui.
C'est pas de la science-fiction, hein ?
Oui, à une certaine normalité.
Puisqu'à la fin, un des narrateurs retrouve Malpertuis. Il arrive à retrouver la ville, la maison, elle existe, elle est là, c'est bien réel, on peut passer dedans, et ouais. Comme c'est un cambrioleur, il arrive à entrer dedans.
Oui, exactement. Surgissement du surnaturel dans un univers qui, de prime abord, ne nous surprenait pas du tout. Alors, en préparant cette émission, on a découvert qu'il existait une adaptation cinématographique de Malpertuis. Harry Kummel, exactement, un réalisateur belge, spécialiste d'ailleurs du genre fantastique, puisque c'est un genre qui traverse les arts, et qui a donc tourné cette adaptation 30 ans après la parution du livre, en 1972. C'est quand même un film où on retrouve Orson Welles, Michel Bouquet ou encore Jean-Pierre Cassel, et un film qui a été sélectionné en compétition officielle à Cannes, donc qui a concouru
Mathieu
pour la
Carrière.
Qui a concouru pour la Palme d'Or. Alors on va tout de suite écouter un extrait de ce film. Il s'agit précisément des premières minutes qui illustrent plutôt bien ce dont parlait Rika, cette atmosphère, grâce à la musique de Georges Delerue, compositeur quand même d'inoubliable musique de film, hein, du Mépris à Platoon. Alors écoutons ces premières minutes qui illustrent très bien l'atmosphère étrange et inquiétante du livre de Jean Rey.
Thank you.
ce film. Alors, c'est dommage, j'ai pas eu le temps de le regarder en entier. J'en ai regardé une partie. Et ce qui m'a paru intéressant, par contre, c'est que le film recrée très bien, dès le départ, l'atmosphère du roman, le malaise, la tension, la peur, l'étrange qui l'habite. Mais bien sûr, le film, il le fait avec ses propres moyens, ne serait-ce par exemple, on l'a entendu dans l'extrait, puis on continue un petit peu de l'entendre derrière, je crois, grâce à l'utilisation de la musique, des effets sonores, des silences, etc. Et le film, il joue aussi beaucoup de l'incertitude, de l'ambiguïté. Par exemple, le personnage, il est dans une bagarre, puis il se réveille dans une chambre où il s'attendait pas à être. Donc même le spectateur se demande si ce qu'il voit, enfin finalement, est-ce que ça existait ou pas. Donc on est aussi un peu dans cette ambiguïté. Et du coup, ça nous a fait réfléchir avec ce parallèle qu'on pouvait faire pour nous permettre de revenir aussi sur un autre aspect important du roman, puisque la désorientation, le doute et l'incertitude du lecteur, elle n'est pas seulement de l'ambiance que crée l'auteur dans son roman. Et ce doute, cette désorientation, elles viennent aussi des techniques et des stratégies narratives que Jean Rey utilise, par exemple, dans la manière dont il construit le roman, qui alterne plusieurs narrateurs, plusieurs espaces, plusieurs époques, où à la fin, on passe un peu de l'un à l'autre et on se dit, mais où on est? Est-ce que c'est vrai? Il y en a un, c'est un narrateur, mais il a la fièvre, donc on se dit, mais est-ce que ce qu'il raconte, c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Donc, on est aussi un peu perdu là-dedans, à remettre en question aussi de ce côté-là. Et donc, finalement, voilà. Est-ce que le fantastique, il n'est pas vraiment servi, ce qui est intéressant, voilà, parce que là, on voit vraiment la spécificité du roman dans cette idée, par ces techniques littéraires? Et si oui, est-ce que vous, qui plus est en tant qu'écrivain, comment vous les percevez, ces stratégies?
Eh bien, oui, je ne sais pas comment je les perçois, mais je dirais que c'est la puissance de la littérature face au cinéma. C'est vrai que le film n'est pas si mal, mais franchement, par rapport au roman, il est pauvre. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il ne reprend pas cette technique narrative de Jean Rey, qui est de dire, enfin, si je compte bien, il y a ce texte dont on ne sait pas trop d'où il vient, qui est le premier, la vision d'Anacharsis. Ensuite, il y a ce qui est écrit par le gars qui a volé le manuscrit de Jean-Jacques Grancir. Ensuite, il y a le manuscrit de Jean-Jacques Grancir. Il y a ce qu'a écrit Don Micéron, hein, qui meurt fou. Donc, il y a ces 4-5 narrateurs différents. Et Kummel n'a pas repris ça au cinéma. Il n'est pas allé chercher comme ça. Parce que, je peux vous dire, avant de venir, je l'ai quasiment relu, mais c'est un plaisir. Donc, ça faisait un moment que je n'avais pas relu. Je l'ai relu et il se trouve, ce qui est absolument formidable, je me suis dit, je devais être à la 300e ou 400e lecture, je ne sais plus. Je me suis dit, c'est incroyable, comme je me rends compte peut-être pour la première fois, à quel point on retrouve absolument tout le monde partout. Douce Dame le Vieil, l'abbé Douce Dame, puisque l'abbé Douce Dame est fils d'un ecclésiastique lui-même, hein, qui pratiquait des pratiques. Bon, l'oncle Cassave, mais Nicolas Grancir, Anselme Grancir, le père, le grand-père de Jean-Jacques Grancir, ils y sont tous. Et si vous prenez tous les manuscrits, on les retrouve tous, tout le temps. C'est-à-dire que chacun parlant de l'autre fait que, eh bien, cette espèce de d'arc-en-ciel de personnages, il n'y a pas un qui apparaît, qui disparaît, qui ne connaît. Ils sont tous connectés.
Alors, pour rebondir sur les techniques littéraires, les techniques narratives qui sont à l'œuvre, cette façon de multiplier les narrateurs, pour accentuer l'inquiétude du lecteur, il me semble qu'elle prend place dans une stratégie plus globale, qui est aussi de mettre en place une sorte de jeu de piste, où on voit bien que Jean Rey a un plaisir immense à nous perdre, à nous récupérer juste après, parce que, bah oui, on n'allait pas continuer sans lui de toutes les manières. Et à semer des indices qui, en fait, n'en sont pas. Alors, bien sûr, là, la maison de Malpertuis est un lieu qui est très efficace. C'est-à-dire qu'il nous emmène au grenier. On est absolument terrifiés. On va se demander, mais que va-t-on trouver? Mais en fait, c'était pas là qu'il fallait chercher. Non, c'était finalement en bas des escaliers. Enfin, est-ce que vous avez été sensible à ce jeu de piste? Et pour vous qui avez tant relu Malpertuis, est-ce que vos relectures tiennent aussi de retrouver ces indices, d'avoir un plaisir plus aiguisé à se dire « Ah oui, là, il m'avait bien eu », et là, voilà, avoir une connaissance précise.
Où sûrement, est-ce que... sûrement. Mais si vous voulez, tout à l'heure, j'ai dit un peu du mal du film, et là où le film est fort, parce que justement, il travaille sur les images, c'est que Harry Kummel, il a pu construire Malpertuis, c'est-à-dire en prenant des bouts de maison, des décors. Cette maison, elle est absolument infinie, elle s'étend à l'infini, il n'y a pas de fin à Malpertuis. Ils le disent. Et alors, c'est vrai que ça ne peut pas exister parce que des maisons qui ne finissent jamais, ça n'existe pas. Hein, elle est dans la tête de l'écrivaine. On peut y rajouter autant d'étages qu'on veut. Il y a des greniers. Il dit qu'il y a des sous-sols, il y a des souterrains, il y a des machins, il s'est effondré, mais on peut quand même passer dessous. Enfin bon, il y a un jardin qui est infini avec au fond un couvent, un ancien couvent en ruine. Enfin, c'est, vous voyez, c'est colossal, quoi. Je veux dire que le Louvre n'y tiendrait pas. C'est ça, quoi. Et donc, c'est vrai que ce que j'avais aimé dans le film, qui est réducteur par rapport à l'histoire, mais qui est effectivement par rapport à l'ambiance est fort, parce que les personnages ils sont là, ils existent, mais c'est vrai que, je veux pas dire la fin, mais le film finit un peu sur la maladie mentale et des choses comme ça, alors que le livre pas du tout quoi, le livre vous dit démerde-toi avec ça, voilà ce que je peux te raconter, voilà ce qu'on a pu retrouver, et puis maintenant tu te démerdes, et je crois que c'est pour ça que comme il y a bon, il y a une explication générale qu'on ne va pas donner de qui sont ces personnages. Mais pour le reste, c'est ce que vous dites. On est obligé, si on veut comprendre cette histoire. C'est pour ça que je vous dis la première fois, je n'ai rien compris. On rentre dans le chemin et on se retrouve devant les carrefours avec « no trespassing », c'est pas par là, il faut monter, il faut descendre. Et alors, c'est vrai que moi, chaque fois que je le lis, je me dis mais d'abord, on ne peut pas imaginer une maison qui contienne tout ça. Mais en même temps, ces espèces de... Et puis ces gens, ils sont où ? Vous voyez ? Même dans une grande maison, vous finissez toujours par ça. Mais là, ils sont où ? Après l'extrait que j'ai lu, eh ben, il va revenir dans et puis d'un coup, il va retrouver le cousin Philarette. Il est là. Mais où il était, le cousin Philarette ? Il avait disparu. On ne sait pas où il était allé entre-temps, si c'est un personnage vrai, pas vrai, etc. Bon, eh ben, il est là. Et comme par hasard, dans ce machin où il nous a raconté qu'il s'est passé cette épouvantable nuit de Noël, que je ne raconterai pas, mais en fait, cette espèce de cauchemar, etc., le cousin Philarette semble être là à faire sa taxidermie, comme si de rien n'était. Ouais, ça, c'est le genre de truc, vous voyez, qui me fait trembler, parce que je me dis, mais ce qui est formidable, c'est qu'en même temps, il est capable, après un truc comme ça, de nous ramener à une espèce de réalité tranquille, et puis on va se rendre compte que dessus, elle est toujours pas tranquille, que le gars qui est en train de naturaliser une souris, il a d'autres idées que de naturaliser les souris, etc. Vous voyez ? Donc, effectivement, je me fais attraper chaque fois. Quand je lis ce livre, vous voyez, je me fais attraper chaque fois parce que je me dis... quand je vous dis qu'à l'heure, je me dis, mais non, mais c'est vrai que je serais à peu près capable maintenant de construire un organigramme total de tous les personnages de Malpertuis en disant la fille, le fils, le machin, le grand-père, le truc, l'oncle, le... Voilà, qui est de telle origine, qui est de telle autre origine et tout. Mais franchement, je suis toujours surpris. Et pourquoi ? Par exemple, pourquoi il y en a qui ne sont pas dans Malpertuis ? Isengoth n'est pas dans Malpertuis. Madame Groula n'est pas dans Malpertuis. Pourquoi ? Il le dit jamais, hein ? Mais je veux dire, quand on lit le truc, on se dit, bah oui, et c'est vrai, puisqu'à la fin, on les retrouve tous les deux ensemble, complètement différents, etc. Mais de cette collection de personnages dont s'est occupé l'oncle Cassave, qui sont soi-disant sa famille et qui devraient tous être là, il y en a qui y sont pas. Et pour autant, ils sont dans l'histoire. Et alors, c'est vrai que vous avez envie de dire, mais bon. Alors, en même temps, je dois vous dire, je pense, vous parliez de Jean Rey qui nous promène. Je crois qu'il a dû se régaler à écrire ça parce que lui-même, avec sa vie, il a fait ça. Hein, il y a une légende Jean Rey. Oui, alors, il a travaillé dans un cirque, il a dompté des lions, et il a fait la rum row, il faisait le trafic au temps de la Prohibition, il a été pirate. Et puis quand on a reconstitué, il y a un cahier de Lerne qui est sorti sur Jean Rey, qui est magnifique, et il y a des gars qui se sont penchés. En gros, il y a des chances qu'il n'ait jamais été qu'employé aux écritures à la mairie de Gand, qu'après il ait travaillé pour des feuilles de choux et qu'il n'ait jamais été marin et qu'il n'ait jamais... on m'appelait Tiger Jack à bord sur ma façon de me battre parce que je suis couturé de cicatrices devant, j'en ai aucune derrière, etc. Mais personne n'a jamais pu vérifier ça. Donc il a inventé sa vie comme il a... Vous voyez ?
C'est vrai que Elodie avait trouvé un extrait de Genré qui est sur Internet et où il parle de, voilà, de son trafic de contrebande.
Oui, ouais, voilà. Sur le fulmar.
Et puis le présentateur, l'intervieweur lui pose une question et puis d'un coup il dit « Ah oui, sur les mathématiques », et puis il dit « Ah oui, non, ça c'est vrai par contre. C'est ce que je viens de vous raconter depuis 20 minutes. » Non, pas du tout, mais par contre, ah oui, là c'est vrai, ça nous a fait rire quand même. On a dit « Oui, bon, d'accord, c'est un personnage. »
C'est sûr, de même qu'il raconte, si vous voulez, que bon, il a été élevé dans le Ham, justement dans une maison. Alors c'est marrant, parce que moi, pensez, j'y suis allé. Je suis allé à Gand, je suis allé dans cette rue, dans le Ham. Je me suis dit « Mais je veux voir ça, j'y suis allé il y a très longtemps. » Il n'y a aucune maison qui ressemble à Malpertuis. Il n'y a rien qui ressemble à ce qu'il raconte qui existait dans cette rue là où il a vécu. Vous voyez, donc et qu'il était un petit garçon qui courait les rues, qu'il était un garnement, qui travaillait pas à l'école, etc. Alors qu'en fait, dans les cahiers de langue, il y a la liste de tous les prix qu'il a eu. Il était premier de sa classe. Il a eu le ruban bleu, le machin, le premier prix de truc. Voilà, c'était un élève très exemplaire et tout. Donc c'est un homme qui a inventé sa vie comme voilà. Et je pense que dans Malpertuis, il y a beaucoup de lui, quoi. Ouais. Hein, il y a beaucoup de lui parce qu'il y a des marins, il y a certainement tout ce qu'il n'a pas été, un explorateur, voilà, bon, quelqu'un qui a vécu dans des grandes maisons, dans des trucs comme ça, alors que c'était un gars qui vivait, bon, qui était d'un milieu modeste et tout, donc il s'est projeté aussi là-dedans. Alors, est-ce que moi, je me suis télescopé avec lui là-dedans? Je ne veux pas faire de psychanalyse de bas étage, mais je pense que oui, quoi. Qu'il y a une façon de raconter une histoire et de mettre tout ça en scène, de la rendre crédible. Finalement, nous disons pas grand-chose, mais... parce que Malpertuis, c'est quand même un roman, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, j'allais dire, je ne sais pas comment on peut dire, mais de la sensibilité. On sent des odeurs, on entend des bruits. Je veux dire, c'est là où il est fort. Hein. Je veux dire, on a chaud, on a froid, c'est glacial, c'est quand même... C'est un roman, une espèce de roman où on sent les choses. Bon, on devient paralysé. Bon, ces choses-là, on les sent. Alors, je pense que cette espèce de rapport complètement tactile au monde qui l'entourait, quand j'ai lu ça, quand j'avais 17 ans, je pense que je devais être suffisamment cinglé pour, suffisamment vivre dans la terreur, dans les angoisses, dans les machins comme ça, pour complètement entrer dans ce monde-là et avoir envie d'y être. Hein, parce que je pense, là, vous me faites découvrir, oui, je pense que j'aurais eu envie d'entrer là-dedans et puis de vivre là-dedans, quoi. Et puis j'aurais laissé la peau, hein, mais bon.
Alors, c'est vrai qu'il y a ce... Voilà, on parle beaucoup de cette force, de cette maison, de cet étrange, et puis du récit qui est construit autour de Malpertuis. Et en même temps, il y a aussi une autre dimension du roman qui est très intéressante et qui, du coup, sort un peu du fantastique et le rejoint aussi, ce qui est intéressant, parce que, du coup, c'est là aussi qu'on voit les croisements qui sont intéressants. C'est Genré fait, et on voit aussi là toute sa culture, fait aussi une grande place aux grandes figures et à des grandes questions de la mythologie grecque. Alors, toujours pareil, il y a tout un imbroglio autour de ça dont on ne tirera pas les ficelles, voilà, cette place qui donne... Moi, j'ai trouvé qu'elle donnait une épaisseur particulière, cette présence et cette référence aux grandes figures de la mythologie grecque, ou à certaines des grandes figures de la mythologie grecque, à des questions comme par exemple celle du destin, qui parcourt, même si on ne s'y étend pas de faire de grands exposés...
Qui est là tout le temps.
Voilà, mais qui parcourt,
tout le temps.
C'est ça. Alors, voilà, vous en pensez quoi?
Ben oui, je crois, si vous voulez, ça aussi, ça fait partie des choses, moi, qui me parle et qui, je veux pas dire que, mais qui en tant qu'écrivain sont des choses que j'aime bien manipuler, c'est-à-dire qu'est-ce qui occupe, j'allais dire, si vous voulez, l'imaginaire collectif. Bon, vous voyez. Et il se trouve que, par exemple, la mythologie gréco-latine, eh ben, on en est tous porteurs. Vous voyez. On en est tous porteurs. Personne, il y a personne qui sait pas qui est, soit Zeus, soit Jupiter, soit Junon, soit Héra, soit Mars, soit comment il s'appelle en grec, j'ai oublié. Bon, vous voyez, donc arriver à travailler sur des choses que tout le monde connaît ou croit connaître, c'est-à-dire qu'ils vont éveiller quelque chose en chacun de nous. Ouais. Bon, moi ça me fascine. Et pour vous dire. Je vais peut-être vous l'apprendre parce que je l'ai découvert il y a que quelques années. Et après, je me suis dit, mais qui a été le premier? Et en fait, c'est Genré qui a été le premier. Henri Bosco ancienne grande gloire qu'on a bien oubliée, hein, mais bon, dont le roman le plus connu reste, je pense, le Maceotti, mais puis les enfants connaissent parce qu'on leur fait lire L'âne culotte et puis L'enfant et la rivière. Voilà. Henri Bosco, et ça je l'ai découvert, moi qui ne regardais presque jamais à l'époque où il y avait l'émission Un siècle d'écrivains, je ne sais pas pourquoi j'ai regardé Henri Bosco. Et je découvre qu'Henri Bosco, il a écrit en 1971 un roman que je pense plus personne, qui s'appelle Le Récif. Et il se passe quoi ? Ben, il y a un récif qui est planté au milieu de la mer Adriatique. Et il y a un gars, sur ce récif, il y a une petite chapelle. Et en gros, je vais faire un... C'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que, si vous voulez, le récit en lui-même est moins important que ce qui est dit justement sur ce qui nous habite par rapport à ça. Il y a une chapelle où il y a une lumière qui s'éteint jamais. Il y a un gars qui va sur ce récif. Et sous ce récif, au fond de la mer, il y a les dieux de l'Antiquité qui vivent dans une ville au fond de la mer où ils ont été relégués et où ils continuent à vivre parce qu'on ne les a pas oubliés, et ils veulent revenir. Hein? Ils veulent remonter à la surface. Ils veulent, et donc, ils essaient de négocier avec cet homme qui est sur le récif, de lui dire, on fait de toi un dieu, mais fais-nous revenir. Bon, je ne vous en dis pas plus. C'est pour vous dire qu'effectivement, évidemment, au niveau de l'écriture, ça n'a rien à voir. Au niveau du fantastique, ça n'a rien à voir. Je dirais que le roman de Bosco est peut-être plus philosophique que le roman de Jean Rey. Mais effectivement, je pense que les choses qui ont à voir avec la mythologie, elle est omniprésente dans l'œuvre de Freud, elle est omniprésente dans tous les travaux sur l'inconscient. Ce sont des choses qui nous structurent, quoi. Peut-être pas les Chinois, mais en tout cas, nous autres Européens, on est complètement structurés en partie, et depuis le plus jeune âge. Vous voyez, comme les enfants, même à notre époque moderne, sont toujours fascinés par la mythologie gréco-latine et par les dinosaures. Ce sont des choses qui continuent, oui, hein, ces choses-là qui étaient avant, il y a longtemps, et qui sont peut-être toujours. Et c'est comme ça qu'on fait Jurassic Park, c'est-à-dire les dinosaures reviennent. On a des trucs comme ça enfouis, enterrés, et qui ne cessent de remonter. Mais ce qui est bien, c'est qu'on les a tous.
Oui,
à peu près. C'est ça qui est formidable.
C'est vrai que ça nous est commun, et de voir cette présence de la mythologie grecque dans ce roman fantastique, on se dit décidément c'est partagé plus qu'on ne le pense. Et en même temps, je voulais vous interroger sur autre chose à propos de cette présence des dieux grecs, et on n'en dira pas plus dans ce livre. Jean Rey nous en donne une vision très dégradée. Ils sont très malmenés, ces dieux grecs, dans Malpertuis. Et
surtout, ils sont mortels.
Voilà, exactement. Alors, je voulais savoir comment vous avez interprété ce choix de Jean Rey, de voir ces dieux si malmenés. Alors moi, j'ai ébauché une petite interprétation.
Allez-y.
Qui est due au contexte, mais alors je reste vraiment très prudente au contexte de 42-43. Hein, le livre est publié en 43, on est quand même en pleine Seconde Guerre mondiale, la Belgique est occupée, comme la France... Et forcément que dans un contexte aussi dramatique, aussi catastrophique, forcément que l'homme ne peut que malmener un peu les dieux, d'essayer de se raccrocher à... Alors, c'est une interprétation extrêmement prudente, et puis il faut que je saute quand même de genre en genre pour arriver à quelqu'un comme Jean Anouilh qui, pendant la guerre, va aller chercher Antigone, va faire quelque chose aussi avec les dieux grecs. Alors vous, comment vous avez lu...
Je pense, si vous voulez, que vous avez en partie raison, en partie tort. Jean Rey vous donne tort dans la mesure où il dit qu'il a construit Malpertuis dans sa tête avant de l'écrire pendant 10 ans.
Ouais.
Donc il n'y avait pas la guerre mondiale, mais enfin c'était des temps troublés. Je pense, si vous voulez, que bon... On ne peut pas être aussi déterministe comme ça et dire bon, c'est la guerre, alors etc. Par contre, moi, je n'ai pas connu de guerre mondiale. Je suis déjà assez vieux comme ça. Mais si vous voulez, je pense que, surtout lorsque certainement on est un artiste, un intellectuel, un écrivain, enfin des gens qui ne sont pas simplement des gens du commun, c'est pas vexant pour les gens du commun. Lorsqu'on se retrouve dans un contexte comme ça, je fais référence par exemple à mon père qui s'est retrouvé dans la Deuxième Guerre mondiale, qui a été un résistant, etc. Je pense qu'on est confronté, j'allais dire, à l'absolu des choses. Qu'est-ce qu'on fait ? La destinée, par exemple, qu'est-ce que je fais ? C'est quoi ? J'y vais pas ? La vie, la mort, enfin, ces espèces d'incontournables de nos pauvres vies. Et que donc... qu'est-ce que c'est d'autre que les dieux de l'Olympe ? C'est l'amour, le sexe, le désir, la mort, hein, Pluton, Hadès pour les Grecs. Vous voyez, donc je pense que ces dieux-là, dans leur diversité, amène à des choses, on a l'impression que les hommes les ont construits en fonction de leurs désirs, de leurs peurs, de ces choses-là. Donc on les retrouve. Mais là où je pense, si vous voulez, que Jean Rey, il a un côté un peu, j'allais dire, peut-être mythologie nordique, vous savez, c'est la seule mythologie où les dieux meurent, hein, les Votan et tout ça meurent, le Valhalla est détruit. Et donc de dire aussi que si les dieux de l'Antiquité sont morts, ou sont pitoyables, comme vous dites, ben. Comme dit Brassens, et le dernier des dieux, le dernier suprême, ne doit pas se sentir tellement bien lui-même. Le jour où on va voir le Christ descendre du calvaire en disant dans sa lippe, merde, je ne joue plus pour tous ces pauvres types, j'ai bien peur que la fin du monde soit bien triste. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a en même temps, parvenir à Weber, hein, peut pas faire parler le sociologue, mais est-ce qu'on enchante le monde ou est-ce qu'on n'enchante pas? Les dieux, ils enchantent le monde. Le Christ enchante le monde, vous voyez? Et quand la littérature, on retrouve ça, moi, vous voyez, ça me fait penser à ce que j'ai écrit dans un de mes romans que j'ai écrit, qui s'appelle « Je n'écrirai pas de roman », je dis, je m'imagine, ouais, justement, je m'imagine dans un petit mas, en Provence, perdu, c'est l'hiver, il y a un petit chemin, il y a un cyprès, et j'attends quelque chose. Qui c'est qui va frapper à ma porte? Qui c'est? Le Christ, peut-être, les rois mages, peut-être, et même... Le Père Noël me suffirait, tiens. Hein, c'est-à-dire, à un moment, vous voyez, cette vie, elle est chiante, elle est morne, elle est triste. Bon, la littérature, elle a aussi pour... changer la vie, il n'y a pas d'autre mot. Et il a rien changé. Donc, je pense qu'il y a un truc comme ça, non? Il me semble, dans Malpertuis, c'est-à-dire, bon, en même temps, c'est triste, c'est moche, c'est une vieille maison, les gens, etc. Mais enfin, là-dedans, ça a quelque chose à voir avec l'Olympe, les dieux et... Il n'y a pas que les dieux de l'Olympe dans Malpertuis. Il y a le Christ. Hein, il y a le Christ à qui on fait référence. Il y a le Christ qui est là. Il y a la chrétienté qui est là avec tous les ordres religieux dont on parle. Qu'il soit déchu ou pas, bon, Douce Dame le Vieil est un abbé satanique, mais par contre, les Barbusquins, le fantôme des Barbusquins, les fantômes des Barbusquins, on peut le dire, ça les apparaissent quand il faut pour arrêter le cauchemar, et puis ça finit quand même, les derniers, ça se finit dans un couvent où il y a quand même des hommes de Dieu qui sont là pour essayer, voilà. Mais on peut avoir, voilà, à un moment, un des personnages, Isengard, dit vous qui êtes serviteur du Nazaréen, priez pour moi, quoi. Et c'est pas n'importe qui dit priez pour moi. Non, vous voyez? Mais ça veut dire aussi que, bon, ben, si tous les dieux sont mortels, ou peuvent être pitoyables, peuvent se dégrader, quid de l'homme là-dedans et de la destinée, hein? Ouf, là, je fais trop de grandes phrases. Hein. On va dire des choses plus drôles.
Non, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, cette référence, toutes ces références dans ce roman fantastique du XXe siècle, elle nous a paru très intéressante, ne serait-ce justement, vous le disiez très bien, pour ce plaisir de retrouver la culture antique et ces grandes figures qui nous accompagnent et qui, comme vous le dites très bien, nous font aussi dans nos sociétés, enfin voilà, comme vous dites, occidentales, bien évidemment, mais ont quand même beaucoup participé à notre construction. Cette culture antique, elle reste une source inépuisable d'inspiration, et c'est pour ça que Malpertuis, ne serait-ce, je trouve, nous on discutait avec Élodie, je disais, ne serait-ce que pour des lycéens, par exemple. Non, mais je...
Oui, pourquoi pas.
Des lycéens, mais pour une approche justement de cette... de cet héritage de la culture latine montré, voilà, bon, Antigone, Danouille, voilà, il y a plein de romans, mais c'est vrai que c'est un roman aussi que on pourrait récupérer dans ce sens-là, de dire ça travaille cette matière-là parce qu'elle reste une source inépuisable dans notre société.
Absolument.
Actuellement. Et donc, dans ce sens-là, pour finir sur un petit clin d'œil avant de passer à notre petite rubrique du mois, on a voulu passer une chanson extraite du film de Woody Allen, Maudite Aphrodite, qui est sorti en 1995. Donc voilà, justement pour montrer que partout on la retrouve un petit peu, très souvent, cette culture et cette culture antique. Et là, la référence à la mythologie, elle est certes déjà explicite dans le titre, mais le film, il est surtout drôle car il met notamment en scène un chœur tel qu'il existait dans le théâtre grec, qui tout au long de l'histoire du film donc encadre et commente les événements de l'histoire. Sauf que bien sûr, Woody Allen, il s'amuse de la référence au théâtre grec, et que le chœur, il se révèle particulièrement déjanté, notamment à la fin quand il va pour conclure le film en chantant. Donc le film se finit, voilà, sur une chanson du chœur qui chante et danse manière un petit peu folle, on peut le dire, cette chanson « When You're Smiling ». Donc on l'écoute pour finir là-dessus.
Le livre de Frog.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. Who keeps smiling when you're laughing? When you're laughing, the sun keeps shining through. But when you're crying, you bring on the rain. So stop your sighing.
Alors, cette chanson nous aura permis de sortir de l'ambiance un peu plus pesante de Malpertuis, ce qui nous permet de reprendre la route des promenades marseillaises du livre de Frog. Et Élodie, dimanche, a décidé d'aller faire un petit tour du côté du Vieux-Port, et puis elle a fini près du Mucem et de la toute jeune librairie, justement, du Mucem. Et alors, qu'est-ce que tu nous as dégoté là-bas ce mois-ci ?
Alors, c'est vrai qu'il faut dire un mot de cette toute nouvelle librairie du Mucem. Vous savez que depuis plus d'un an maintenant, l'édification du Mucem et de la Villa Méditerranée a offert aux Marseillais la possibilité d'une nouvelle balade en partant du Vieux-Port. Et si ce chemin qui longe le Fort Saint-Jean est devenu en lui-même un lieu très apprécié des Marseillais, eh bien certains l'empruntent aussi régulièrement pour poursuivre leur flânerie au milieu des livres de la belle librairie du Mucem. Donc cette librairie m'a accueilli très chaleureusement dimanche dernier, parce qu'on peut profiter de cette librairie le dimanche, ce qui est quand même un beau cadeau. Et cette librairie se veut la librairie des Marseillais, et pas seulement de ceux qui passent au Mucem, c'est-à-dire des touristes français et étrangers. Alors bien sûr, elle accompagne certains cycles du musée, certains événements de la Villa Méditerranée, mais son activité est loin de se résumer à sa situation géographique. On trouve sur les tables des choix véritables, pleins de sens et aussi d'une grande diversité, de la littérature jeunesse à l'architecture, de la Méditerranée aux beaux-arts, de la littérature française aux revues. J'ai donc glané 3 conseils de lecture auprès de Laetitia, d'Anaïs et de Floriane. Alors Laetitia, qui est la directrice de la librairie, nous conseille « Orphelin de Dieu » de Marc Biancarelli, qui est publié chez Actes Sud en cette rentrée. Avec ce livre, nous sommes plongés dans la Corse du 19e siècle, dans une histoire de vengeance où la France représente une menace et où l'île et ses paysages sont les complices des embuscades. Nous avons 2 personnages qui partagent un amour assez indéfini. Et c'est une histoire pétrie de violence, une histoire assez crue, qui dit bien que la vie humaine n'est pas toujours propre et lisse, et aussi qu'une littérature qui ne perturbe pas quelque peu son lecteur, on l'a vu quand même aujourd'hui, ne fait peut-être pas bien son travail. Anaïs, qui est spécialiste en littérature jeunesse, nous a conseillé le dernier livre d'un auteur qu'elle aime beaucoup, qui est un auteur de littérature jeunesse, mais pas que. Elle attendait impatiemment son dernier livre. Il s'agit d'Antoine Volodine et de son Terminus radieux, publié au Seuil en cette rentrée. Anaïs a eu un grand plaisir à retrouver l'univers si singulier de cet auteur, qui frôle quelquefois le fantastique tout en se gardant de déplaire aux sceptiques du genre, ce qui est une gageure. Et donc, sans surenchère, dans une écriture exigeante mais fluide, Volodine nous raconte, sur fond de steppe et de taïga, l'histoire de Terminus radieux, ce kolkhoz qui survit tant bien que mal alors que la seconde Union soviétique a subi un échec terrible. Et enfin, Floriane, qui, elle, se consacre au rayon littérature de la librairie, nous conseille « Rouge ou mort » de David Peace aux éditions Rivage, traduit par Jean-Paul Gratias, qui retrace de façon très documentée et avec une ambition littéraire remarquable la vie de Bill Shankly, le mythique manager du club de Liverpool entre 59 et 74. Alors, ce sont 800 pages sur le foot, mais à dire vrai, c'est beaucoup plus que ça. Si le style peut désarçonner de prime abord, il devient très vite hypnotique et fait de ce roman une véritable incantation pour un football qui est alors bien loin du foot business d'aujourd'hui. On est à l'époque des années Thatcher, et alors que la population de cette ville portuaire subissait la débâcle industrielle et le chômage, le foot a fait quand même espérer bien des gens, et Bill Shankly, si dévolu à son club, a été le héros de la classe ouvrière. Alors, passez à la librairie du Mucem, ce sont de merveilleux libraires qui vous y attendent, même le dimanche. Voilà.
Merci Élodie, cette émission s'achève donc. Merci Gilles d'être venu nous parler de Malpertuis de Jean Rey. Et puis je pense que comme d'habitude, entre nos conseils ce mois-ci de la librairie du Mucem, cet ouvrage de Jean Rey, Malpertuis, et puis bien sûr on n'oublie pas le dernier roman de Gilles Ascaride aux éditions du Chopelan, La Conquête de Marseille, je pense que vous devriez avoir quelques pistes de lecture, au moins pour le prochain mois à venir, en attendant notre retour sur Radio Grenouille avec le livre de Frog. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Le livre de Frog.
Littérature, livre, invité.
Le livre de Frog.
Chronique, émission spéciale, sélection musicale. Radiogrenouille.com.